À la une en Belgique avec vous, Lise et notre invité. On va revenir sur le procès des attentats de Bruxelles. Je vous laisse le soin de vous entretenir et de nous présenter l'invité.
Alors en fait, hier avait lieu à Bruxelles à ce fameux procès des attentats les plaidoiries de la défense des deux accusés Mohamed Abrini et Oussama Krayem. Et c'est pour ça qu'on voulait s'entretenir avec vous, maître Aline Ferry, avocate des parties civiles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Mohamed Abrini, enfin les avocats pardon, de Mohamed Abrini et Oussama Krayem ont plaidé la culpabilité. Est-ce que c'était une surprise pour vous ou pas du tout, maître Aline Ferré?
Et c'est vrai qu'ils n'annoncent pas au préalable, j'ai envie de dire, ce qu'ils vont plaider. Donc, on avait préparé en tout cas tout ce qui était possible en réplique, en tout cas de plaider. On avait abordé la question du désistement volontaire dans le cadre de nos plaidoiries, et le parquet fédéral avait fait de même. Mais c'est vrai que finalement, ils ont plaidé la culpabilité, ils ont indiqué que leurs clients assumaient leurs responsabilités, reconnaissaient les faits. Je ne parlerai pas de surprise quand on connaît l'implication de M. Krayem et de M. Abrini dans le dossier, mais en tout cas, effectivement, ils ont pu indiquer, ils ont pu reconnaître leur juste responsabilité, puisque c'est en ces termes qu'ils se sont exprimés.
Alors, l'avocat de Mohamed Abrini s'est surtout concentré, en fait, en termes de stratégie, sur le fait de réduire la peine de son client, si j'ai bien compris.
Oui, effectivement, on est dans un débat ici qui s'est ouvert sur la culpabilité, qui devrait être tranchée par le jury dans le courant du mois de juillet. Mais c'est vrai que les avocats préparent déjà le second débat, qui est celui de la peine, un débat auquel les parties civiles n'ont pas accès. C'est bien évidemment uniquement le parquet fédéral qui va requérir une peine à l'encontre des accusés et les avocats des accusés qui s'exprimeront sur cette peine et le jury qui devra trancher dans un second temps cette question de la peine.
Alors, donc, c'est maître Laura Pinilla qui parlait hier et elle a rappelé les propos de Mohamed Abrini au début du procès. Dans les faits, j'ai une grande part de responsabilité, je dois assumer, c'est mon destin, je ne peux pas revenir en arrière. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et à côté de ça, elle a tout fait pour montrer, évidemment, au contraire du procureur que il a eu un rôle mineur, selon elle, en fait, dans ces attentats.
Effectivement, c'est la défense qui a été adoptée par M. Abrini, mais ce n'est pas le seul qui a adopté ce type de défense-là depuis le début du procès, de dire que, effectivement, eux n'étaient pas les grands penseurs, n'étaient pas les grands responsables de ces attentats-là, et que les grands responsables, c'était les trois kamikazes qui ont trouvé la mort à Zaventem et à Malbec. Alors, c'est une défense qui, par moments, pour les victimes, est très difficile à entendre, parce que, oui, effectivement, on pense, il y a un dirigeant, M. Oussama Attar, qui est le grand absent de ce procès, qui serait mort en Syrie, mais on n'a aucune certitude, et qui aurait commandité les attentats de Bruxelles. Ça n'enlève rien à la responsabilité qu'apportait M. Abrini ou M. Krayem dans, finalement, ces attentats du 22 mars. Ils étaient tous les deux porteurs de charges explosives lorsqu'ils se sont présentés à Zaventem et à Malbec.
Alors justement, les avocats de la défense insistent sur la complexité du dossier et veulent dire que leur client n'est pas le monstre radicalisé que l'accusation tente de faire de vendre, ont-ils dit au jury. Et ils ont indiqué à trois reprises au moins que l'accusation avait pris des libertés avec la vérité des faits. C'est grave quand même d'être de cette façon de présenter les choses.
En tant qu'avocat de la défense, ils ont le droit de dire ce qu'ils souhaitent et je ne serai personne et je ne me permettrai jamais de critiquer une défense qui serait présentée. Effectivement, la défense axe ses principaux arguments en critiquant le réquisitoire du parquet fédéral. C'est leur défense et nous, en tant qu'avocat de partie civile, on n'a strictement rien à dire sur cette défense qui est présentée par chaque accusé.
Non, non, bien sûr, mais ça doit être difficile à entendre tout de même parce qu'on le voit à toutes les étapes, on va dire, de cet attentat. Donc, dire qu'il a un rôle mineur, je suppose que c'est difficile à digérer.
Pour les victimes, oui, bien entendu. Oui. Maintenant, on les avait préparées quant au fait de savoir et elles étaient préparées sur le fait qu'elles allaient entendre des choses qui étaient très difficiles, des choses qui n'allaient pas leur plaire, des choses qui n'allaient pas leur convenir. Donc à ce niveau-là, on avait vraiment fait un travail en amont de plaidoirie de la défense en expliquant que les avocats de la défense faisaient leur travail et qu'ils défendaient également la position de leurs accusés. Alors tout n'est pas audible au niveau des victimes, ça c'est vrai que c'est une réalité. La défense fait son travail et c'est ce que plusieurs victimes nous ont indiqué. c'est qu'elle regrettait certains propos, mais qu'à côté de cela, elle était bien consciente que les avocats de la défense faisaient leur travail en fonction du mandat qui leur avait été également donné par leur client.
Bien sûr. Maître Aline Ferry, est-ce que vous avez l'impression que dans le cas de Mohamed Abrini, il s'agit d'un enjeu symbolique et du fait même qu'il a déjà été condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour les attentats de Paris, et donc réduire sa peine pour quelqu'un qui de toute façon doit être en prison à perpétuité?
Je ne parlerai pas d'enjeu symbolique. Je dirais que M. Abrini doit assumer les faits pour lesquels il doit être condamné ici à Bruxelles. Mmh. Et la peine doit être à la hauteur des actes qui ont été commis. Peu importe la peine à laquelle il a été condamné à Paris. Maintenant, c'est vrai qu'on ne pourra pas accumuler des années de prison, je veux dire, les unes aux autres. On n'est pas du tout dans un système comme aux États-Unis. Mais à côté de cela, oui, il devrait être condamné pour les faits belges, pour le fait d'avoir participé aux attentats et aux assassinats, aux tentatives d'assassinat ici en Belgique, en sachant, certes, qu'il a été condamné à Paris, mais Paris, c'était, comme les avocats de la défense l'ont répété à plusieurs reprises, un autre dossier.
Et en ce qui concerne la plaidoirie d'Ossama Krayem, là aussi, pas de surprise par rapport à ce que le parquet fédéral avait présenté. Comment vous avez trouvé la plaidoirie de la défense hier?
À nouveau, pas de grande surprise sur la plaidoirie de Monsieur Krayem. Voilà, on adopte une ligne de conduite. Monsieur Krayem, c'est celui pour lequel on est quelque part le plus interpellé, parce que c'est celui qui a le plus parlé dans le cadre de l'instruction, et c'est le grand absent de ce procès, dans le sens où il ne s'est présenté à aucune audience, il a demandé à retourner dans le cellulaire systématiquement. Et donc c'est vrai que c'est interpellant, parce que on s'est vraiment posé la question. On avait compté le nombre d'auditions, on était à une trentaine d'auditions, on était à des centaines de pages où vraiment il s'explique énormément sur la préparation de ses attentats, sur le rôle qui était le sien, sur le rôle quelque part de chacun, et même son rôle a posteriori dans les attentats lorsqu'il a pris la fuite avant de rentrer dans le métro, lorsque Khalid El Bakraoui rentre dans le métro, M. Krayem s'en va. Et c'est vrai que ici, l'attitude qu'il a adoptée nous a laissé perplexe, et le rôle pour sa défense, c'est toujours compliqué de défendre, je pense, une personne qui refuse de se présenter, qui refuse de répondre aux questions. Donc, oui. Pas de grande surprise sur ce qui a été plaidé. On a eu effectivement, ben voilà, le parquet fédéral qui, une fois de plus, a été égratigné en termes de plaidoirie. Il y a voilà une volonté de ne pas dédouaner la responsabilité ni même le rôle du client dans les faits, de leur client dans les faits. Maintenant, à côté de cela, effectivement, on a à nouveau, en ce qui concerne M. Krayem, une grosse responsabilité. Il était porteur des charges explosives à Malbec. Il s'est débarrassé de ces charges explosives. Ça avait, on en a discuté dans le cadre du procès, mais véritablement, M. Koué, la Belgique au moment du 22 mars, puisqu'on savait qu'il y avait des charges explosives qui se, permettez-moi l'expression, mais se promenaient dans la nature, puisqu'on avait vu une personne qui repartait avec un sac à dos qui était rempli d'explosifs. Et le dossier nous a appris que M. Krayem est allé les évacuer dans l'appartement de la rue des Cases.
Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il a fait demi-tour dans la station de métro Malbec, c'est d'ailleurs sa seule excuse, et il s'est muré dans le silence. Et quand ses défenseurs parlent d'injustice faite à son égard, je suppose que pour les victimes, c'est vraiment très difficile à entendre.
Injustice, c'est souvent très difficile à entendre pour les victimes. Ça, c'est sûr que c'est une réalité. Elles ont ce sentiment, elles, dans leur souffrance, de vivre une injustice, d'avoir été là le jour-là du 22 mars et d'avoir subi ce qu'elles ont subi. Et donc les moyens de défense qui sont exposés quand on parle d'injustice sont des mots qui sont à peine audibles pour elles. Ça, c'est une réalité.
Ma dernière question, Maître Aline Ferry, est-ce que vous avez l'impression que dans ce procès des attentats de Bruxelles, on discute suffisamment du fond, j'ai envie de dire, du terrorisme en lui-même et de la lutte qui peut être faite en Occident, ou ça n'est pas du tout pour vous le lieu de ce procès?
À mes yeux, c'est pas le lieu du procès de discuter en tant que tel du terrorisme. On doit en discuter puisqu'on est dans le cadre d'attentats terroristes, dans un contexte terroriste. Donc, on a dû réexpliquer ces notions au jury. Maintenant, on sait vraiment, et c'était le parquet fédéral l'a fait également, nous l'avons fait. Je pense que la défense le fait également. Mais vraiment, c'est d'analyser la responsabilité, le rôle de chacun dans ces attentats. Après, le terrorisme, le débat sur le terrorisme, on l'a un peu abordé effectivement dans la plaidoirie de Maître Cohen jeudi dernier, qui s'est exprimé sur le droit de la guerre. Mais à côté de cela, je pense qu'on va au fond du dossier. Et oui, ça, c'est une réalité.
Est-ce qu'à votre avis, les interrogatoires des accusés ont vraiment éclairé les quelques zones d'ombre qui subsistaient encore ou pas du tout?
Il y a toujours des zones d'ombre. Ça, c'est à nouveau, c'est un constat qu'on a dû dresser à la suite de l'interrogatoire de Monsieur Napoki, qui a reconnu dans son interrogatoire, mais qu'il avait récupéré des armes, mais qui ne dit pas où elles sont et avec qui elles sont. Donc ça reste par exemple une zone d'ombre. Mais à côté de cela, on a eu Monsieur Ayari, qui le 12 avril dernier, ben, s'est vraiment exprimé sur le rôle qui était le sien, mais surtout sur son parcours de vie, son parcours en Syrie. Et c'était vraiment une audience qui était assez révélatrice. Pendant 1 heure, il a pris la parole et il a expliqué pourquoi il en était arrivé là, le contexte dans lequel il était arrivé en Syrie, ce à quoi il avait assisté. Donc on avait quand même une certaine prise de responsabilité, une prise de conscience dans son chef. Tous n'ont pas fait n'ont pas montré cette prise de conscience dans le cadre des interrogatoires, mais globalement, effectivement, je pense que les interrogatoires des accusés nous ont permis d'éclairer certaines zones d'ombre, peut-être pas toutes, mais certaines.
Merci beaucoup, Maître Aline Ferry, avocate des parties civiles au procès des attentats de Bruxelles, d'avoir été avec nous. Et bon courage, si j'ose dire, pour la fin de ce procès qui est tout de même difficile.
Je vous remercie, excellente journée à vous.
Vous aussi, au revoir.